Rémi Lévy du blog après50ans.fr. Bonjour. Auteur du livre Trouver le bonheur en soi, il a été médecin de campagne, homéopathe et acupuncteur. Formé à la thérapie cognitive, il anime aujourd'hui régulièrement des conférences. Je reçois le docteur Xavier Amiot pour nous aider à trouver le bonheur. Donc voilà, donc un blog, c'est un site internet. Il est mis à jour de manière plus fréquente et de manière chronologique. Les gens peuvent s'abonner. Et donc c'est pour ça que je voulais aussi donc vous rencontrer, puisque vous êtes l'auteur du livre « Trouver le bonheur en soi ». J'ai prévu des questions, mais après on peut discuter. Non, mais c'était la première question, c'était pourquoi ce livre en fait ?
Ben moi, j'ai eu cette chance de tomber dans le bonheur quand j'étais petit. Quoi. C'est ce que dit ma femme. Je suis Obélix. J'ai pas besoin qu'on me ramène, j'en ai assez. J'ai pas le droit d'aller en prendre un petit peu plus parce que, comme Obélix. Mais c'est une chance, hein. C'est une chance. Donc, j'ai jamais compris pourquoi il y en a qui avaient tout pour le bonheur et qui n'y allaient pas. Donc, il fallait que je développe ça. Et j'ai eu la chance de découvrir la thérapie comportementale et cognitive avec les Canadiens. C'était passionnant parce qu'ils sont très en avance sur nous sur la prise en charge des problèmes psychiques dus à l'obésité en particulier. Et là, je me suis tout à fait reconnu dedans. Et puis après, j'ai commencé à faire des conférences il y a 12-13 ans. Et maintenant, j'en fais tout public ce que je faisais comme médecin avant. Mais moi, j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont été passionnés par le métier dès l'âge de 5 ans, alors que j'étais fait pour être médecin. Et quand on est dans ce métier-là, si on n'est pas passionné, ça doit être très compliqué. Et moi, on a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. J'ai connu ça dès l'âge de 22, 23 ans, je crois. Donc j'étais très en avance. Et puis, une fois que j'ai compris que le bonheur, on pouvait le partager, je me dis, tiens, je vais essayer de le partager. Et avant d'écrire le livre, quand même, ce que tu as un accident, le livre, c'est parce que j'ai eu un problème de santé qui m'a cloué au lit et ma femme m'a dit, pour t'occuper, écris quelque chose. Donc j'ai écrit un bouquin.
D'accord, ok. Et donc c'est comme ça que c'est venu, en fait.
C'est comme ça que c'est venu. Mais suite à mes conférences, c'est-à-dire que mes conférences, les gens me demandaient un papier à la fin, mais j'avais pas de papier à leur donner, donc je me suis dit, tiens, je vais écrire quelque chose. Et j'ai écrit un bouquin, j'ai trouvé le titre avec « Trouver le bonheur en soi ». Et c'est grâce à un problème de santé que j'ai pu écrire ce livre. Donc je remercie fortement le problème de santé. C'était un genou, je ne pouvais plus bouger. Mais c'était bien. Et avant de faire ce livre, j'ai été voir un psychanalyste renommé pour prendre les gens en charge pendant 30 ans, à raison d'une séance par semaine. Et je l'ai vu avant. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous venez faire là? Vous n'avez rien à faire avec moi. Vous avez tout compris. Donc c'était ce que je voulais entendre. Mais je ne voulais pas écrire un livre comme certains... de dire aux autres ce qu'il faut appliquer en ne le faisant pas soi-même. Ça m'aurait gêné, j'aurais eu l'impression d'être un usurpateur. Et moi, je voulais écrire quelque chose que je ressentais vraiment et que je pouvais transmettre. Ouais.
Moi, j'ai retenu, je vais prendre pas mal d'exemples du livre. Vous dites, pour espérer atteindre le bonheur, il est impératif de retrouver son moi originel.
Oui. Le moi originel, c'est ce qu'on a à la naissance, entre guillemets, ou même avant la naissance, avant qu'on ait des perturbations créées par les autres. Alors les autres vous créent des perturbations, vous donnent des principes, des croyances, des devoirs. Il faut, tu dois. Et pour retrouver ce moi original, il faut reprendre tout depuis le départ et se dire, qu'est-ce que je garde? Ça correspond vraiment à moi, qu'est-ce que je garde pas? Mais si on reste avec des croyances et des devoirs qui nous ont été inculqués et qui ne correspondent pas à notre moi, on ne sera jamais soi-même.
D'accord.
D'accord. Donc pour ça, il faut faire un retour sur soi. Donc vous avez parlé de méditation tout à l'heure, c'est une des meilleures solutions. Il y a la psychanalyse, mais moi, j'ai pas eu besoin de ça. Il y en a qui en ont peut-être besoin. Mais moi, c'est plus la méditation, la marche, la nature, le jardinage, qui fait qu'on peut se poser, revenir sur son soi et se dire, tiens, ben ça me correspond pas, je sais pas pourquoi. Les questions telles que tu dois aimer ton père, tu dois aimer ta mère, si ce sont des gens détestables, on a le droit de pas les aimer, c'est pas un devoir, c'est un ressenti, qui n'a rien à voir. Mais on a plein de choses qui nous ont été inculquées, qu'il faut revoir. Il y en a qu'on garde, bien évidemment, puis il y en a qu'il faut rejeter. Et à ce moment-là, on va être soi. Pour moi, être soi, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est pas seulement être acteur de sa vie, mais metteur en scène. Ne pas laisser les autres vous mettre en scène, sinon vous êtes manipulé. Et il y a une notion de manipulation dans le, l'absence de moi originel, c'est qu'on a été un petit peu manipulé, un petit peu façonné. Tu dois suivre les ordres de ton père, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, tu dois, est-ce que tu penses être bon de suivre ton père? Si c'est non, c'est non. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
Donc le moi originel, c'est ce qu'on veut réellement être et non pas ce qu'on a voulu qu'on soit.
Dans votre conférence, vous dites que il est nécessaire d'apprendre à gérer ses émotions.
Oui.
Donc, comment on fait pour gérer ses émotions, concrètement?
Il y a plusieurs façons, mais la meilleure façon, c'est la thérapie cognitive, c'est-à-dire que dès que vous avez une émotion, vous essayez de retrouver la pensée qui a été à l'origine de l'émotion, et vous voyez si cette pensée n'est pas excessive. Donc, n'a pas entraîné une émotion excessive.
D'accord.
Parce qu'on ne peut pas gérer une émotion, mais on peut gérer la pensée qui a été à l'origine de l'émotion. Donc, si vous avez une grosse émotion et que la pensée que vous avez eue n'est pas est excessive par rapport à ce que vous voudriez penser face à l'événement que vous avez vécu, à ce moment-là, vous avez une émotion trop forte. L'émotion, comme ça, mange une énergie qui est pas utile. Il est préférable de gérer au fur et à mesure. Et souvent, les gens ont le même type d'émotion. Il y a des gens qui ont une émotion telle que la colère à chaque fois. Il y en a qui sont tristes pour un rien. C'est rare qu'ils aient les deux. On a eu des personnes tristes ou des personnes coléreuses. Il y en a qui, dès qu'il y a le moindre petit problème, vont se mettre en colère. Donc, il faut gérer la colère pour cela. Et puis, ceux qui sont tristes, il faut essayer de trouver des pensées qui sont un peu moins irréalistes. Okay. J'emploie le mot irréaliste dans la gestion des émotions. Donc, souvent, on a des émotions qui ne sont pas en rapport avec l'événement.
D'accord.
Si l'événement est très grave, il est normal d'avoir une émotion à 9 sur 10. Mais si c'est une bricole, je ne vois pas pourquoi on va se bouffer la vie avec des émotions inutiles. Donc jusqu'à ce qu'on élimine 90% de ces émotions, puisqu'il y en a 90% qui sont totalement inutiles, face à la télévision, face
à... Vous avez un exemple, par exemple
Déjà, la télévision. S'il y a une catastrophe que vous voyez à la télévision, vous mettez à pleurer pour une catastrophe qui ne vous concerne pas, c'est inutile, c'est vraiment de l'énergie que vous pompez sur vous et que vous n'avez plus pour autre chose. Donc, vous pouvez avoir de l'empathie, c'est-à-dire dire que pour les autres qui le vivent, c'est triste, mais pourquoi vous vivre ce moment-là? Non. Si vous voyez quelqu'un passer au rouge, mais que vous n'êtes pas concerné parce qu'il ne vous rentre pas dedans, c'est pas la peine de se mettre en colère, c'est son problème, et puis il ne s'est rien passé. Donc, il y a plein de petites émotions journalières, telles que quelques le feu rouge, telles que celui qui vous grille la priorité, si, bon, c'est pas bien, mais si vous n'êtes pas rentré dedans, il ne faut pas en faire toute une maladie et ressasser pendant 10 minutes. C'est de l'énergie, pour moi, qui est inutilement pompée.
D'accord. Okay.
Ça répond à votre question.
Oui, tout à fait. Il y a une autre chose aussi. Donc, pour arriver à ce moi originel, il faut déprogrammer son passé.
La déprogrammation du passé, donc c'est pour faire en sorte que le passé ne soit plus une nuisance à votre présent. Donc ça se fait en 7 étapes. La première étape, c'est savoir quel est l'événement qui a pu vous marquer au point de nuire à votre présent. Et ça, dans le but, c'est de vivre l'instant présent pleinement. On élimine tout ce qui peut gêner du passé pour vivre l'instant présent pleinement, sans qu'on ait des pensées négatives ou tristes qui vous reviennent à cause du passé. Un divorce, le décès d'un proche, etc. Donc on a une période de deuil qui est nécessaire, mais ça ne doit pas rester une plaie après. Et donc à cette étape, il y a l'événement, trouver ce qu'on a mis en place pour ne pas souffrir, et puis l'éliminer, tel que manipulation, déni, évitement. Après, il faut libérer la colère si on a une colère. On peut avoir une colère contre la mort, par exemple. Ne pas accepter le fait de la mort d'un proche à qui on tenait, être en colère contre la mort, ça peut se faire, pourquoi pas. Après, il y a déculpabiliser, éviter d'avoir de la tristesse excessive, faire son deuil, accepter le fait d'avoir vécu quelque chose, même si c'est gravissime. Je pense là, par exemple, à une jeune... J'ai suivi quelques femmes qui avaient été violées. Il est vrai que c'est gravissime, mais on peut vivre avec une fois qu'on a déprogrammé, sans gâcher toute sa vie à cause de quelque chose dont on n'est pas responsable. Quand on est responsable, c'est différent. Quand on n'est pas responsable, on ne doit pas avoir une nuisance de son passé si on n'est pas responsable. Si on tue, si on viole, on peut éventuellement être malheureux toute sa vie, mais c'est nous qui avons causé, donc c'est différent. Vous voyez, les différences entre ce qu'on cause nous comme et ce que les autres nous causent. pourquoi souffrir de quelque chose dont on n'est pas responsable? Donc la déprogrammation acceptée, et une fois qu'on a accepté, parce que si on n'accepte pas, on continue à souffrir d'un passé douloureux. Donc il vaut mieux accepter. J'ai vécu ça, j'ai vécu un divorce, j'accepte. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire, et peut-être que j'aurais été malheureux si ça s'était pas fait encore plus que je le suis maintenant, etc. Et après, pardonner à ceux qui vous ont offensé, comme on dit dans la Bible, mais pardonner, et je dirais pas comme dans la Bible, c'est se pardonner au moins à soi-même d'avoir été malheureux pendant des années à cause d'un fait dont on n'est pas responsable. Si on peut pardonner à l'autre, c'est encore beaucoup mieux. Pardonner à son ex-épouse ou son ex-époux, pardonner à un parent qui a été violent, pardonner à un violeur, ça me paraît très compliqué pour les femmes qui ont vécu ça. Mais il y en a qui ont réussi, j'en donne un ou deux exemples d'ailleurs, j'en donne un exemple dans mon livre, des femmes qui ont réussi à pardonner en libérant sa colère, en lui en envoyant un sexe masculin fait en pâte à sel, en le recommandé avec accusé de réception. Mais bon, mais on doit pouvoir pardonner à tous, et il y en a qui y arrivent difficilement, mais bon, ça peut se faire. Et une fois qu'on a déprogrammé tout ça, on peut penser au fait sans que ça nous fasse remonter la moindre émotion. Donc ça nuit pas à votre présence.
D'accord. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire seul ou il faut être accompagné?
Alors souvent, il est préférable d'être accompagné par un thérapeute en thérapie cognitive, mais on peut arriver à le faire tout seul, puisque c'est un écrit, c'est lever la manipulation, le déni ou l'évitement qu'on a mis en place, se libérer la colère, on peut le faire soi-même, on peut acheter un punching ball et mettre la photo de celui qui nous a fait du mal, taper dessus quelques minutes, sans que ça devienne de la haine, jamais de haine, jamais de jugement, mais au moins libérer sa colère. Après faire son deuil, normalement on le fait tout seul. Non, ça peut se faire tout seul, hein. Bon, c'est vrai que d'être aidé, on peut être aidé par un ami, on peut être aidé par un thérapeute, on peut être aidé par un conjoint, on peut être aidé par... mais on peut le faire soi-même. Il faut être solide, hein, pour le faire, la déprogrammation. Il faut pas être, savoir gérer ses émotions avant de déprogrammer, puisqu'il arrive des émotions qu'il faut savoir contrôler après grâce à la veille de thérapie cognitive.
D'accord. Donc c'est bien aussi de se faire accompagner.
Mais c'est peut-être mieux de se faire accompagner. Le gros souci, c'est que des thérapeutes en thérapie cognitive comportementale, on a peut-être 2 pour 150 000 personnes. Donc D'accord. C'est un peu compliqué. Si on peut y arriver tout seul, c'est pas mal. D'accord. Au moins pour des petits faits, pour s'entraîner. Et une fois qu'on sait le faire, c'est comme tout, hein, c'est un apprentissage. Une fois qu'on sait le faire, on peut arriver à petit aller vers des points de plus en plus compliqués, de plus en plus graves, et y arriver très bien à la fin. C'est un entraînement. C'est comme la gestion des émotions. Il y a une jeune femme qui m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, voilà, moi, j'ai pas besoin de papier pour le faire, tel que vous le demandez, mais je le fais de tête comme ça. Très bien, c'est signe qu'elle a avancé pour en arriver à pouvoir le faire automatiquement.
On parlait tout à l'heure de la méditation. Vous dites que la méditation permet de se retrouver soi et définir ses objectifs compatibles avec nos aptitudes réelles.
La méditation, ça permet déjà de faire remonter des choses qu'il va falloir gérer. C'est le principe de la méditation au départ.
Je vous donne rendez-vous sur mon blog après50ans.fr pour le deuxième volet de cette rencontre avec le docteur Xavier Amiot. Nous parlerons de la méditation, de la connaissance de soi, de la confiance en soi et de l'estime de soi. À très bientôt.